On dit bonjour à tous. Donc, je vous ai dit hier que nous continuerions ce que nous avons dit, c'est la suite, donc, de « Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde », aujourd'hui avec pour thème « Transformer, transfigurer tout ce qui est déformé dans les âmes ». Donc, vous pourriez vous poser la question « D'où vient ce titre ?» Alors, l'origine, c'est une des consignes que notre mère donc a reçue dans sa prière. Voilà, donc qui fait partie aussi de notre mission, transformer, transfigurer tout ce qui est déformé dans les âmes. Donc, on pourrait se poser la question pourquoi ce titre a été mis ce matin après avoir vu cet appel de Jésus à être sel de la terre et lumière du monde. Eh bien, ce titre a été mis parce que, donc on l'a évoqué hier, il faut que le sel garde toute sa saveur, et il faut que la lumière brille. Et pour cela, eh bien, il faut qu'on garde notre ardeur. Et alors, je voudrais commencer cet enseignement. Donc, hier, c'était un extrait de ce que Benoît XVI avait dit à une veillée de prière avec des jeunes à Fribourg, en Allemagne, en 2011. Nous ne pouvons pas taire le fait que le mal existe. Nous le voyons en tant de lieux de ce monde, mais nous le voyons aussi, et cela nous fait peur, dans notre vie elle-même. Oui, dans notre cœur lui-même existe l'inclination au mal, l'égoïsme, l'envie et l'agressivité. Grâce à une certaine autodiscipline, cela peut être contrôlable dans une certaine mesure. Par contre, cela devient plus difficile quand c'est une manière d'être mauvaise plutôt cachée qui peut nous envelopper dans un brouillard asphyxiant, et ce sont l'indolence et la douleur de vouloir et d'accomplir le bien. Sans cesse, dans l'histoire, des personnes attentives ont fait noter: le préjudice pour l'Église ne vient pas de ses adversaires, mais des chrétiens attiédis. Vous êtes la lumière du monde. Seul le Christ peut dire « Je suis la lumière du monde ». Nous tous sommes lumière seulement si nous demeurons dans ce « vous » qui, depuis le Seigneur, devient lumière toujours de nouveau. Et comme au sujet du sel, et en signe d'avertissement, le Seigneur affirme qu'il peut devenir insipide. De même, dans ses paroles relatives à la lumière, il a mis également un léger avertissement. Plutôt que de mettre la lumière sur le lampadaire, on peut la couvrir avec un boisseau. Demandons-nous, combien de fois couvrons-nous la lumière de Dieu par notre inertie, notre obstination, de sorte qu'elle ne puisse plus resplendir à travers nous dans le monde. Fin de citation. Donc, que faire? Nous décourager? Non, au contraire, répondre avec plus d'ardeur encore à l'appel de Jésus. Et je vous cite encore la suite de Benoît XVI aux jeunes. Dans la clarté d'innombrables lumières, dans la splendeur de tant de jeunes qui croient en Christ, une bougie peut donner de la lumière seulement si elle se laisse consumer par la flamme. Elle demeurerait inutile si sa cire n'alimentait pas le feu. Permettez que le Christ vous brûle, même si cela peut parfois signifier sacrifice et renoncement. Ne craignez pas de pouvoir perdre quelque chose et de rester à la fin, pour ainsi dire, les mains vides. Ayez le courage de mettre vos talents et vos qualités au service du règne de Dieu et de vous donner vous-même, comme la cire de la bougie, afin que par vous le Seigneur illumine l'obscurité. Sachez oser devenir des saints ardents dans les yeux et dans les cœurs desquels brille l'amour du Christ et qui, de cette manière, porte la lumière au monde. Voilà donc cet appel de Benoît XVI aux jeunes, eh bien, on peut le prendre pour nous aujourd'hui. Voilà, avec ce désir vraiment de transformer, de transfigurer tout ce qui est déformé dans les âmes. Et c'est vrai qu'on n'a pas besoin de trouver de nouveaux programmes, c'est toujours le même pour nous qui sommes chrétiens, pour raviver la flamme, pour garder cette saveur du sel, et puis pour que ce monde soit conquis à l'amour de Jésus, eh bien c'est d'aimer, de faire connaître, d'imiter Jésus. Et c'est ce qu'a compris aussi notre père fondateur. Voilà, notre père fondateur qui a été marqué par l'Évangile, hein. Il avait un grand amour de l'Évangile dès l'âge de ses 15 ans, il le connaissait, il le méditait souvent, et c'est en méditant souvent l'Évangile, en contemplant la personne de Jésus, qu'il a compris cette nécessité de conquérir les âmes à l'amour par l'amour. Combien nous sommes loin, écrit-il, en ce temps d'une réalisation du plan d'amour de Dieu. La solidité de la famille est fortement ébranlée. Les liens entre les hommes et les femmes sont de plus en plus fragiles. Le soi-disant amour libre multiplie les cohabitations fragiles et provisoires. Et leur éducation est excessivement difficile dans des milieux largement corrompus. L'amour humain, quelle misère! Devant l'état lamentable, la mission de l'Église devient de plus en plus nécessaire et urgente. Beaucoup pensent qu'il faudrait accepter l'évolution inéluctable des mœurs, qu'il faut être tolérant, qu'il ne faut pas condamner, qu'il faut accepter l'évolution sociale. Il est évident, écrit-il, que pour le bonheur terrestre et ensuite éternel des hommes, Dieu ne peut accepter ces démissions. Et le Seigneur et son épouse, l'Église, sont là pour guérir, pour sauver, pour éduquer au véritable amour humain et divin. La civilisation de l'amour n'est pas une utopie. Pour l'extension de l'apostolat, par l'éducation spirituelle, doit se multiplier grâce aux apôtres de Jésus. Le véritable amour doit s'élever, droit, fort, impératif. Voilà, c'est ce qui nous donne beaucoup d'espérance. Cette levée de ces apôtres qui vont travailler à transfigurer ce monde, à l'illuminer. Oui, notre monde a besoin d'être touché et guéri par la beauté et la richesse de l'amour de Dieu. Père Bernard l'a dit hier, hein, l'amour n'est pas cité dans les béatitudes, mais c'est le cœur du message chrétien. Le monde actuel a besoin des témoins de cet amour. Il a besoin que nous soyons sel de la terre et lumière du monde. Alors comment allons-nous travailler à transformer, à transfigurer tout ce qui est défiguré dans les âmes? Eh bien, avec ce premier désir qui doit nous habiter sans cesse et que nous donne l'enseignement des béatitudes, c'est désirer avec ardeur être sel de la terre et lumière du monde en vue du ciel. Voilà tout le sens de notre vie sur cette terre. Ne nous laissons pas détourner de notre destinée qui est le ciel. Vivre pour gagner le ciel. Oh, combien cela vaut la peine d'être vécu. C'est tout le message de l'Évangile. La proclamation des béatitudes qui précède cet appel à être celle de la terre et lumière du monde nous l'a rappelé. Et on le voit, c'est merveilleux, voir Dieu, être rassasié, être consolé. Il nous faut donc d'abord éduquer nos propres âmes à devenir ces saints que Jésus attend et que le monde attend. Notre relation avec les saints doit faire grandir en nous ce désir de le devenir à leur suite. Prions-les beaucoup, prenons le temps pendant ces temps de vacances de lire des vies de saints. Ils sont, comme l'a dit encore Benoît XVI, de véritables étoiles dans le firmament du ciel, des phares pour de si nombreuses générations. Ces saints se sont donnés sans compter avec amour, confiance, patience et persévérance. Et ils savaient tous qu'ils n'auraient pas les consolations sur terre, mais dans le ciel. Et c'est aussi ce que nous dit Mère Marie-Augusta. Notre bonheur promis est dans le ciel. Et la sainteté est la clé pour un monde meilleur. Et c'est vrai que c'est aussi ce que la Sainte Vierge a dit à Sainte Bernadette à Lourdes au cours de la troisième apparition. Je ne vous promets pas ce bonheur ici dans ce monde, mais dans l'autre. Donc voyez, ce désir du ciel doit animer nos âmes. Nous devons tout faire pour le ciel, pour gagner le ciel, pour conquérir les âmes au ciel. Et pour cela, eh bien, il faut un travail d'éducation des cœurs. qui consiste à éclairer les âmes, les enseigner avec cette certitude que Jésus a la puissance de les transformer, de les transfigurer. Mais Jésus a besoin de canaux. Il a besoin d'ouvriers. Donc ayons donc ce désir de transformer, de transfigurer ce qui est défiguré dans les âmes. Et on vivra ce que Jean-Paul II, donc je vous ai cité la lettre apostolique hier qu'il a écrite au terme de l'année du jubilé, donc de l'an 2000, hein, qu'on a eu la grâce de vivre et qui a été une année de grâce. Il a conclu cette année avec beaucoup, beaucoup de souffle, même s'il a souffert des années qui ont suivi. Et donc il écrit dans cette lettre « Novo millennio iniunte », un nouveau siècle, un nouveau millénaire s'ouvre dans la lumière du Christ. Mais tous ne voient pas cette lumière. Nous avons la mission admirable et exigeante d'en être le reflet. C'est le Mysterium Lunae, si cher à la contemplation des pères, qui par cette image voulait montrer la dépendance de l'Église par rapport au Christ, soleil dont elle reflète la lumière. C'est une manière d'exprimer ce que le Christ dit de lui-même en se présentant comme la lumière du monde, et en demandant à ses disciples d'être à leur tour lumière du monde. Donc cette mission d'être des saints, d'abord, nous fait frémir quand nous voyons notre faiblesse, mais cette mission est possible grâce à la grâce de Jésus. Donc ce désir du ciel est d'être des saints, et pour cela, donc, notre monde a besoin de vrais témoins. Et ces témoins, Paul VI l'a dit, hein, nos jeunes ont plus besoin de témoins que de maîtres. Hein. Et saint Isidore, évêque, hein, dit « Quiconque a reçu la mission d'instruire et de former les peuples à la vertu doit être saint en toutes choses. » Et c'est aussi cet appel que nous avons dans le discours sur la montagne, si vous le conduisons, « Soyez parfaits comme votre Père est parfait. » Et pour être ses témoins, il nous faut contempler Jésus. Et notre Père fondateur, dans l'Évangile, il y a découvert Jésus comme le parfait éducateur. Cette mission d'éducation, nous pourrons l'accomplir qu'en imitant Jésus. Alors, nous le voyons à travers les béatitudes, hein, il nous faut être doux et miséricordieux à sa suite, mais aussi ardent et énergique. Jésus ne nous entraîne pas à la mollesse. Dans l'Évangile, nous le voyons énergique lorsqu'il voit, il chasse les vendeurs du temple, qu'il chasse les démons, qu'il commande à la mer. Donc vous voyez cette énergie de l'amour que nous devons vivre pour éduquer nos propres cœurs d'abord et ceux des autres. Et Jésus qui n'a pas peur non plus de se fatiguer pour faire des nombreux kilomètres à pied pour évangéliser et bien sûr pour aller jusqu'au bout de sa passion. Voilà. Donc l'éducation ne passe pas seulement par des paroles mais par des idées vécues. Que disait Mère Marie-Augusta, il faut des idées vécues. Donc il faut que pour, d'abord nous transformions, nous transfigurions notre propre âme en travaillant à cette éducation, en menant le combat spirituel, l'éducation des vertus. Et c'est vrai que Saint François de Sales, qui aime beaucoup aussi les images, en donne une très belle quand... Il pose la question, quelle est la différence entre l'Évangile et la vie d'un saint? Eh bien, il dit, c'est la même différence qui existe entre une symphonie écrite sur une partition et une symphonie jouée. Donc ça parle aux musiciens. C'est comme cela, dans la vie d'un saint ou au moins d'un chrétien fervent, nous apprenons comment on met en pratique l'Évangile. Nous tous, entre autres, nous devons nous efforcer d'être cette symphonie jouée par tous les frères que nous rencontrerons sur notre chemin. Nous sommes donc appelés à être le sel de la terre et la lumière du monde en accomplissant les bonnes œuvres, pas uniquement aux œuvres de miséricorde, mais aussi l'exercice des vertus, vertus théologales, foi, espérance et charité, vertus cardinales, justice, prudence, force et tempérance, et encore, les vertus qui se trouvent dans les béatitudes, donc patience, pureté, humilité, douceur, humilité et pauvreté d'esprit. Donc vous voyez pour nous l'importance de méditer l'Évangile pour que nous soyons les premiers à vivre l'exercice des vertus. Et donc l'exercice des vertus, ça veut dire, encore une fois, c'est pas dans la facilité, un exercice, on se fatigue, on fait un effort normal. Mais avec la grâce, et que Dieu nous donne, eh bien, nous pouvons mener ce combat avec cette certitude qu'on obtiendra la victoire. Et c'est vrai que ce combat qui doit être mené avec patience, qui demande beaucoup de patience, l'éducation demande beaucoup de patience, d'abord envers nous-mêmes, on voit combien Dieu est patient entre nous, à notre égard, depuis tant d'années, on n'a pas encore obtenu cette grâce de la sainteté, mais il faut continuer à travailler. Et le Père, notre Père fondateur, relève que dans le mot patience, eh bien, il y a le verbe latin pati, souffrir. Donc, ça fait partie de ce combat, d'avoir à faire des efforts, à souffrir. Donc, ce désir de transformer d'abord notre propre âme pour être témoin dans ce monde et éclairer ce monde, donner une saveur à ce monde. En gardant dans nos cœurs cette ardeur missionnaire, donc bien sûr qu'il faut qu'on se sanctifie soi-même, mais on sait qu'une âme qui s'élève et élève le monde, donc en ayant aussi ce désir de travailler à l'éducation des âmes dans ce monde. Donc pour vous, parents, votre première responsabilité, ce sont l'âme de vos enfants, mais ce sont aussi l'âme de tous ceux qu'on côtoie dans le travail, dans nos études, dans toutes les associations dans lesquelles... et cette ardeur missionnaire qui doit être animée par cette urgence. On a dit hier, notre mère qui disait « le temps presse, les démons s'est déchaînés ». Et c'est aussi cette ardeur qui animait saint Paul, qui lui-même, par sa conversion, a été éclairé par Jésus ressuscité. « Caritas Christi urget not ». La charité du Christ nous presse. Donc cette conversion, cette transformation d'abord de nos propres âmes par notre propre conversion, et puis ce travail d'éducation spirituelle en vue de la sanctification et de la transformation des âmes. Et même, vous voyez dans la consigne que nous laisse notre mère, il y a aussi transfigurer. Voilà, donc ce qui fait penser à ce mystère lumineux de la transfiguration. Vous voyez, Jésus, dans sa transfiguration, il reflète la lumière de Dieu. Voilà. On n'a pas besoin... Bon, hier, il y avait ce concert. On imagine sans doute un énorme des spots et des spots et des spots qui éclairent. Eh bien, nous, en tant que chrétiens, il n'y a pas besoin de spots qui éclairent. C'est la lumière du Christ en nous parce que nos âmes sont transfigurées. Donc, l'importance de l'éducation. Donc, la sagesse, le sel, avons-nous dit hier, est le symbole de la sagesse. Donc, dans ce travail d'éducation, proclamons à temps et à contre-temps l'importance d'obéir au commandement de Dieu. La sagesse, c'est mettre Dieu à la première place. N'ayons pas peur de l'enseigner à ceux qui nous entourent. Éduquer n'a jamais été facile, et cela nous semble encore plus difficile aujourd'hui. Père Bernard nous a rappelé hier ce que disait Mère Marie-Augusta. L'éducation est un divin métier. Oui, nous avons besoin de l'aide de Dieu. Vous, parents, enseignants, et tous ceux qui exercent des responsabilités éducatives le savent bien. On pourrait en rejeter spontanément la faute sur les nouvelles générations, comme si les enfants qui naissent aujourd'hui étaient différents de ceux qui naissaient auparavant. Eh bien non. La cause principale est surtout ce manque de transmission de la foi, de certitude et de valeur. Donc n'ayons pas peur. Toutes les difficultés que nous rencontrons pour transformer, transfigurer les âmes ne sont pas insurmontables. Mais nous savons que chaque âme, de ceux que l'on, d'abord nos propres âmes et ceux que l'on côtoie, possède une liberté. Et c'est vrai que là encore, Mère Marie-Augusta peut beaucoup nous aider. Elle disait de la liberté, c'est un don précieux quand on en use bien. Et c'est aussi une arme redoutable. Donc, cette liberté, il nous faut l'éduquer. Donc, une éducation demande une réelle éducation. Les parents préoccupés, souvent angoissés pour l'avenir de leurs enfants, la demandent. Beaucoup d'enseignants qui vivent la triste expérience de la dégradation de leurs écoles la demandent. La société dans son ensemble la demande. Les enfants et les jeunes la demandent. Donc nous tous qui croyons en Jésus, nous ne devons pas avoir peur. Dieu ne nous abandonnera pas pour cette belle et grande mission. Et il nous faut y répondre aujourd'hui, pas demain. Et c'est pour ça que c'est très beau, ce matin en prenant le tract, parce que je ne l'avais pas lu avec assez de détails. J'ai trouvé ça très beau, cette citation du Père, hein, du 15 octobre 79, donc elle est vraiment toujours d'actualité. Et le Père écrit, donc je ne l'avais pas mis dans, prévu dans mon topo, mais je vous l'ai dit, j'ai un petit peu de temps. C'est tout de suite que Dieu veut conquérir les âmes par des chrétiens vivants. Il faut faire son possible pour que chez nous, des chrétiens de plus en plus nombreux se fortifient pour être prêts à affronter les combats que les événements peuvent nous préparer, mais surtout pour que leur vie soit lumière et chaleur pour les âmes et que se prépare avec eux et en partie par eux la civilisation de l'amour que le Tout-Puissant prépare envers et contre tout, malgré la rage de l'enfer pour notre pauvre terre. Donc vous voyez, tout de suite, donc aujourd'hui, Jésus a besoin d'éducateurs. Et c'est vrai que, vous voyez, hier, quand Père Bernard parlait des béatitudes en disant, dans les béatitudes, il n'y a rien de l'amour, mais on retrouve l'amour, l'amour qui est don. Eh bien, tout éducateur véritable sait que pour éduquer, il se doit se donner lui-même. Et il doit donner quelque chose de lui-même. Donc, l'amour, c'est le don. Et dans l'éducation, eh bien, il est normal qu'on ressente de la souffrance. La souffrance fait aussi partie de la vérité de notre vie. Et c'est vrai qu'il faut qu'on reste fort dans la souffrance, hein, et aussi qu'on se rende compte que la souffrance, elle porte son fruit. La capacité d'aimer correspond de fait à la capacité de souffrir et de souffrir ensemble. C'est on vous disait tout à l'heure, hein, l'exemple de Jésus qui était énergique en portant sa croix jusqu'à la fin. C'est notre modèle. Et l'éducation ne peut se passer donc de l'autorité. Donc n'ayons pas peur. Alors une autorité qui est animée d'amour, mais qui aussi, qui s'impose, qui impose la vérité, qui impose ces valeurs que l'on doit garder. L'autorité qui est le fruit de l'expérience aussi et de la compétence et qui s'acquiert surtout, et je le redis, par la cohérence de notre propre vie. Donc l'éducateur doit être lui-même un témoin de la vérité et du bien. Et alors je termine pour vous montrer, vous voyez, ce désir que l'on doit avoir d'être des saints et de conduire les âmes à être des saints, doit aussi nous faire, donc on se donne dans l'amour, dans la souffrance, dans la difficulté, et aussi avec cette certitude que c'est Dieu qui travaille, c'est Dieu qui transforme l'âme. Et donc il va être bientôt canonisé un jeune saint, Carlo Acutis, qui est, bien sûr, qui au début a été présenté beaucoup comme un geek au paradis, mais en approfondissant sa vie, c'est une âme extraordinaire, et qui pourtant a peu reçu, mais son témoignage va entraîner ses parents. C'est très très beau, on a eu la grâce d'entendre le témoignage de sa maman qui nous dit, bien, avant cette conversion de Carlo, elle était allée 3 fois à la messe seulement, et bien Carlo va l'entraîner. Et Carlo, qui a eu ce désir, dans la mesure où il a été conquis par l'amour de Jésus, de le transmettre et de le faire connaître. Et sa maman disait, mais Carlo, c'est pas seulement celui qui a usé d'Internet, c'est celui qui n'a pas eu peur non plus de dire à ses amis, mais là, ce que tu fais, c'est pas bien. Si tu veux aller au ciel, c'est pas bien. Et il avait cette ardeur, voilà, missionnaire. Et c'est vrai que le pape Léon XIV, dernièrement, a aussi reconnu être béatifié, c'est 50 Français, et c'est extraordinaire aussi, des Français qui ont entre 20 et 45 ans, 50, qui sont morts dans les camps de travail ou des camps de nazis, et qui sont morts pour ne pas renoncer à cet amour de Jésus. C'est extraordinaire, c'est un héritage pour nous Français, et vous voyez, faut faire lire à ceux qui nous entourent et nous-mêmes ces vies de saints qui nous stimulent à aimer Jésus, à désirer ce ciel. Et je termine encore par une citation donc de Benoît XVI dans Spe Salvi, puisque cette année sainte a pour thème l'espérance. J'ai développé dans la récente lettre encyclique Spe Salvi sur l'espérance chrétienne. Seule une espérance fiable peut être l'âme de l'éducation, comme de la vie tout entière. Aujourd'hui, notre espérance est assiégée de toutes parts, et nous risquons de redevenir, nous aussi, comme les païens d'autrefois, des hommes sans espérance et sans Dieu dans ce monde, comme l'écrivait saint Paul aux chrétiens d'Éphèse. C'est ici précisément que naît la difficulté peut-être la plus profonde pour une véritable œuvre éducative. À la racine de la crise de l'éducation se trouve en effet une crise de confiance dans la vie. Je ne peux donc pas terminer cette lettre sans une chaleureuse invitation à placer en Dieu notre espérance. Lui seul est l'espérance qui résiste à toutes les déceptions. Seul son amour ne peut pas être détruit par la mort. Seule sa justice et sa miséricorde peuvent panser les injustices et récompenser les souffrances subies. L'espérance qui s'adresse à Dieu n'est jamais une espérance pour moi seule, c'est toujours aussi une espérance pour les autres. Elle ne nous isole pas, mais nous rend solidaires dans le bien, nous stimule à nous éduquer réciproquement à la vérité et à l'amour. Et c'est vrai que cet appel de Jésus à transformer nos âmes, à travailler aussi à la transformation des âmes de ce monde, à leur transfiguration, de transfigurer tout ce qui est déformé dans les âmes, peut nous donner le vertige. C'est vrai que c'est un appel qui est exigeant, mais pour ceux qui étaient autour de Jean-Paul II en 1986 à Strasbourg, Jésus avait dit l'appel de Jésus est exigeant, mais c'est l'exigence de son amour. Alors, on peut avoir peur, on peut se dire comment faire, mais nous savons qu'il nous en donnera sa grâce, et sœur Gaëtane nous donnera cette espérance tout à l'heure, en développant, puisons en Jésus la force, l'amour et la lumière. C'est lui qui nous la donne, donc on peut être plein d'espérance et plein de joie aussi, et plein de confiance.